Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Dans Espérance aujourd'hui, nous abordons les questions d'actualité à la lumière de la Bible, afin de mieux comprendre notre monde et vous faire part de l'espoir que Dieu offre.
Aujourd'hui encore, nous nous penchons sur le problème des catastrophes naturelles.
J'en parle avec notre invité Flavien, qui est ancien dans une église dans le sud de la France. Il habite une région souvent touchée par de violentes tempêtes et des inondations. Bonjour Flavien, quel aspect des catastrophes naturelles voulez-vous aborder aujourd'hui?
Dans les deux émissions précédentes, j'ai essayé de démontrer qu'un conflit s'est installé entre la race humaine et les éléments naturels, et ceci à cause du péché. Les catastrophes naturelles sont un symptôme, parmi d'autres, que quelque chose ne va pas entre les hommes et Dieu. Elles sont un signe du mécontentement de Dieu envers notre conduite, un avertissement du jugement à venir, une invitation à nous remettre en question et à chercher le salut auprès de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais montrer qu'il peut y avoir un lien direct de cause à effet entre le comportement des hommes et l'environnement dans lequel ils vivent. Autrement dit, les hommes, par leurs propres actions, peuvent amplifier les risques de subir une catastrophe naturelle.
Pouvez-vous nous donner des exemples pour expliquer ce que vous dites, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Il est reconnu de nos jours que la planète est en train de se réchauffer, et ceci à cause des gaz émis par les industries et la circulation. Il est aussi reconnu que l'une des conséquences de ce réchauffement planétaire est une augmentation des catastrophes naturelles et de leur gravité. Il y a plus de tempêtes violentes, plus d'inondations, et ailleurs, plus de périodes de sécheresse.
Donc l'on peut dire que la convoitise déchaînée des pays industrialisés produit des retombées, parfois dramatiques pour tout le monde.
Oui, c'est exact. Les hommes abusent de la terre. Ils abusent de toutes ces ressources naturelles que Dieu leur a confiées. Et ils en subissent toutes les conséquences.
Avez-vous d'autres exemples de catastrophes naturelles dont les conséquences sont aggravées par la faute des hommes?
Oui. Comme premier exemple, prenons le cas d'une région à risque sismique élevé. Si l'on y construit des immeubles bon marché, non conformes aux normes antisismiques de construction et de sécurité, leurs habitants risquent fortement de mourir en cas de tremblement de terre, car ces maisons et ces immeubles s'écrouleront facilement. Ensuite, parfois les autorités d'un pays laissent des personnes construire leur habitation en des endroits où, en cas de pluie exceptionnelle, il existe un fort risque d'inondation ou de glissement de terrain, entraînant des pertes de vie et de biens. Enfin, là où il est procédé à la déforestation, il existe plus de risques d'inondation, car les arbres ne retiennent plus l'eau sur le sol, ce qui entraîne également plus de risques de famine, car la qualité du sol se dégrade et les récoltes diminuent, surtout en période de sécheresse. En gros, dans leur relation avec la terre, tout comme dans d'autres domaines de leur vie, les décisions irréfléchies des hommes ont tendance à se retourner contre eux.
Mais j'ai remarqué que dans la plupart de ces cas, ce ne sont pas forcément ceux qui se conduisent de façon irréfléchie qui en subissent les conséquences. Par exemple, ce sont surtout les pays prospères qui profitent des produits de l'industrialisation, tandis que les pays en voie de développement souffrent davantage des effets dramatiques du réchauffement de la planète. Et ce ne sont pas non plus les constructeurs d'immeubles peu solides qui se font écraser lors des tremblements de terre. Qu'en dites-vous?
Je suis bien d'accord avec vous. Ce dont nous parlons est un symptôme, parmi d'autres, de l'injustice profonde qui règne dans le monde. Oui, certains riches ou puissants abusent trop souvent de leur position ou de leur pouvoir. Et c'est l'environnement qui en souffre. Et tous, avec, mais surtout les pauvres et les défavorisés. Ce genre d'exploitation et d'oppression existe depuis toujours. Mais les conséquences, surtout sur l'environnement, s'aggravent de nos jours.
Et la Bible, qu'en dit-elle?
En voilà une question importante. La Bible dénonce l'injustice. Elle dit que le Seigneur Jésus reviendra un jour pour juger les injustes et relever les justes. Cependant, avant de parler de la fin de l'histoire, il serait instructif de remonter à son début.
Vous pensez, je suppose, à la création du premier homme et de la première femme en Genèse chapitre 1 et 2. Que pouvons-nous en apprendre ?
Eh bien, une fois que Dieu eut créé l'homme, il accorda à ce dernier la responsabilité, et je cite la Bible, la responsabilité de dominer la terre.
Comment faut-il comprendre ce verbe employé ici ?
Il doit être compris ainsi. Dieu a placé la terre entre les mains de l'homme, qui a donc le droit d'exploiter ses ressources afin de subvenir à ses besoins. Nous avons la permission de l'explorer, de l'étudier, de nous en servir pour notre bien. Toutefois, si Dieu nous a confié la terre, c'est pour que nous en soyons les gestionnaires ou les intendants responsables. Aujourd'hui, la race humaine est devenue, sans aucun doute, un gestionnaire irresponsable. Lorsque nous confions l'usage d'un bien précieux à quelqu'un, c'est à la condition que cette personne en prenne soin. Quand Dieu a confié la terre aux hommes, il leur a accordé le droit d'usage, mais avec la responsabilité d'en prendre soin. Aujourd'hui, nous constatons que nous n'avons pas pris soin de la terre et nous commençons à en subir les conséquences, car elle se retourne contre nous. Nous avons déjà appris que cela a été prévu lorsque Dieu a prononcé des malédictions lors de la première désobéissance de l'homme.
Mais aujourd'hui, le mal est fait. Il semble dorénavant impossible de faire marche arrière. Alors, que peut-on faire face à cette situation ?
Il est vrai que nous pouvons nous sentir impuissants, sans emprise sur ce problème, ce qui est probablement encore plus vrai pour nos auditeurs. Cependant, nous pouvons quand même réfléchir à deux questions. D'abord, pouvons-nous nous-mêmes prendre mieux soin de l'environnement que Dieu nous a confié afin de ne pas le détériorer davantage ? Ensuite, y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour contribuer à plus de justice envers les pauvres et les défavorisés, afin qu'ils ne subissent pas les effets dévastateurs des catastrophes naturelles ? Nous n'avons pas forcément beaucoup d'influence, mais le peu que nous pouvons faire, faisons-le. Là où nous pouvons faire pencher la balance, agissons pour le bien. Faisons tout ce que nous pouvons.
Cet appel à la responsabilité devant Dieu est important, mais le Seigneur nous a-t-il donné une idée sur comment les choses évolueront ?
Oui, mais nous y reviendrons une prochaine fois. Toutefois, afin de vous en donner un petit aperçu, je dirai ceci. Aujourd'hui, la terre et l'humanité entière sont soumises à la souffrance et à la frustration. L'apôtre Paul compare la terre à une femme sur le point d'accoucher, qui est en proie aux douleurs. Cependant, nous savons que ces douleurs de l'accouchement cessent à un moment donné et qu'une nouvelle vie est engendrée à travers ces douleurs. De même, les convulsions douloureuses de la terre, dont les catastrophes naturelles sont un signe, cesseront un jour. Parce que Dieu aura créé une nouvelle terre et de nouveaux cieux, où l'homme revivra en harmonie et en paix avec son environnement, et où, de surcroît, toutes les anciennes injustices auront disparu, car Dieu, le juste, ne permettra plus aucun tort. Voilà, une fois de plus, l'espérance à laquelle il faut s'accrocher.
Nous allons poursuivre le thème des catastrophes naturelles avec André que nous accueillons sur le plateau. Il nous fera part de ses pensées sur un récit trouvé dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27, qu'Hélène va nous lire.
Il monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !»« Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac. Il se fit un grand calme. Saisi d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ?
Au beau milieu d'une tempête, il est compréhensif que la peur s'installe et quand cette tempête commence à menacer bien et vie, il est normal que l'on commence à paniquer. C'est ce qui arrive aux disciples qui traversent le lac alors qu'une bourrasque violente s'abat sur eux. Pourtant, Jésus semble leur reprocher leur crainte et leur agitation. Il dit « Pourquoi avez-vous si peur ? Votre foi est bien petite. » Pourquoi fait-il ces reproches ? Jésus vient d'être réveillé par ses disciples affolés, alors qu'il dormait paisiblement au fond de la barque malgré les secousses produites par le vent et les vagues. Jésus est serein, en paix, parce qu'il se sait maître de la situation et il connaît d'avance la fin de l'histoire. Jésus, me semble-t-il, veut montrer aux disciples que puisqu'il est présent avec eux, ils peuvent aborder ou traverser les tempêtes de la vie sereinement, avec confiance et espérance, et nous devons en tirer la même leçon pour notre vie. Je note aussi que Jésus n'a pas dit « Vous n'avez pas de foi », mais « Vous avez peu de foi ». Il y a là une très grande différence. Les disciples, dans leur détresse et leur panique, se sont tournés vers Jésus. Ils lui ont adressé une prière. « Sauve-nous !» Alors, ainsi ont-ils mis leur foi dans la bonne personne, dans celui qui seul pouvait les tirer d'affaire. Cependant, c'était une foi qui osait à peine croire en Jésus. C'était une foi affolée et non une foi sereine. C'était une foi du dernier recours et non une foi pleinement confiante. Jésus, par son comportement et ses paroles, voulait en fait fortifier et améliorer la foi de ses disciples et les préparer pour le jour où ils seraient absents physiquement, mais présents par l'esprit. Nous allons tous rencontrer des situations difficiles et douloureuses dans la vie. Ces moments-là ressemblent à des tempêtes. Nous pouvons nous sentir secoués dans tous les sens. Mais Jésus montre, à travers cet incident sur le lac, que malgré certaines apparences, il reste maître de la situation. Il est présent avec les siens dans leurs moments difficiles et il les conduit vers une vie plus paisible. Puisque tout cela est vrai, nous pouvons avoir une foi plus sereine et confiante. Jésus comprend tout à fait que certaines expériences dans la vie suscitent angoisse et affolement et peuvent fragiliser notre foi. Jésus veut affermir notre foi afin que nous puissions traverser les tempêtes dans la paix, la confiance et l'espérance. Comme dit le prophète Ésaïe, « Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu. »
Aimez votre prochain. En cas de catastrophe naturelle, des occasions peuvent se présenter durant lesquelles nous pouvons faire preuve de solidarité envers les nécessiteux. Nous en parlerons la prochaine fois.
Notre désir est que le Seigneur Jésus puisse vous conduire à une foi sereine et confiante, une foi capable de vous faire tenir ferme quelles que soient les circonstances de votre vie. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.